On a gagné. Mais qu'est-ce qu'on a gagné exactement? Raffin est encore là? Ah non, c'est pour votre agos qu'on peut déboulonner Chirac et Raffin.
Vive Chirac. Il a créé un emploi stable, celui de Premier ministre.
Allô, Raffin 2, ici Raffin 3. Bon, bah tu peux arrêter tes conneries, je prends le relais. Enfin, je vais pas faire pareil que toi. Moi, je vais faire mieux. Encore plus de licenciements déguisés en plans sociaux, plus de privatisation, et moi, je vais avoir un discours explicatif, humble et humaniste, pour enrober tout ça. Tu vas voir, la communication pédagogique, même ces abrutis de gauche, ils finiront par comprendre. Bon, je te laisse, je dois promener le chien du baron. Allez, Médès, viens ici, oui, là. Oui, un susu qui est pas pissé sur les SDF, hein, c'est sale. Bon, allez. Non, pas à gauche, à droite, là, gentil.
Oui, bonjour, c'est Latifa, Maxilib, Gare de Lyon. Je voulais vous informer que nous sommes en grève, l'ensemble des salariés du magasin Maxilib de la Gare de Lyon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on travaille dans des conditions dignes de Zola. Nous sommes en grève, aujourd'hui nous entamons notre 4e semaine de grève, nous réclamons des toilettes, l'accès libre aux toilettes, puisqu'aujourd'hui nous avons le droit d'aller une fois par jour aux toilettes, à savoir un ticket par jour. Nous demandons les commodités d'usage, à savoir de l'eau pour pouvoir se laver les mains. Notre direction, seule réponse de la direction, ce sont des menaces de nous emmener en justice. Et donc nous continuons notre grève et on voit aucune issue à nos demandes, malgré l'inspecteur du travail des transports qui envisage de dresser un procès verbal, puisque c'est le non-respect de l'application du code du travail.
Cher Daniel, je finis d'écouter ton émission avec autant d'émotions que toi il y a 10 ans. Et je te remercie énormément, et c'est grâce à des gens comme toi que la vie peut continuer et espérer d'être vécue à peu près convenablement.
Aujourd'hui, l'odeur du charnier parvenait jusque sous mes fenêtres. Allez, bon courage à toi et voilà.
Bonjour, c'est Claudine de Montpellier. Eh ben, c'est assez dur de parler après ce que j'ai entendu sur le Rwanda. Je me dis que pendant les camps d'extermination, j'étais pas née, mais il y a 10 ans, eh bien, j'étais née. Et non seulement j'étais née, mais à l'époque, j'écoutais déjà là-bas si j'y suis. Et je me souviens d'avoir écouté des émissions, ben, ça devait être sur le Rwanda, et de m'être dit, là, je peux plus, c'est insupportable, je peux plus. Et d'avoir éteint l'émission. D'avoir éteint la radio. Voilà, et puis je réentends ça, et puis d'un seul coup, je prends conscience de tout ça, et puis quoi, et puis voilà, on continue, je continue, et voilà. Et j'ai bien peur que ça continue comme ça. Voilà, au revoir à tout le monde.
Des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, suite à tout ce qui se passe sur cette planète et dans notre beau pays, et puis aussi suite à l'émission d'hier, la première émission de cette série, intitulée Valentine de Rwanda, 10 ans de Rwanda. Hier, c'était cette journée très particulière du 27 mai. Je me trompe souvent sur la date, hein, c'est pas le 23 mai, c'est bien le 27 mai 1994, où nous étions arrivés dans cette église, cette paroisse de Nyarubuye, au sud-est du Rwanda, et au milieu d'un charnier, nous avons découvert cette fillette, à l'époque 13 ans, Valentine. Aujourd'hui, un an plus tard, nous étions retournés au Rwanda à sa recherche, et c'est sur cette année suivante, Rwanda un an après, que nous revenons aujourd'hui.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
Mais vous parlez pas des massacres. Il y a eu des massacres considérables au Rwanda.
Pardon?
Il y a eu des massacres au Rwanda.
Quand est-ce que...
nabura kubyibagirwa se parangiza gutya nabyibagirwa
quoi veux-tu que j'oublie avec toutes ces cicatrices tu vois ce qu'ils m'ont fait comment veux-tu que j'oublie je ne peux pas je ne peux pas oublier ça.
Toi, par exemple, qu'est-ce que tu veux te faire pardonner?
En 94,
j'ai pas pu résister. Quand la guerre a commencé au Rwanda, j'ai participé à les massacres.
Les gens criaient, les gens hurlaient.
Oui, ils ont commencé à hurler, puis après, on n'attendait plus rien du tout, parce qu'on les avait tués.
Ils
faisaient des gourdins, des haches, des machettes, des lances.
Et vous avez tué n'importe qui, les vieux, les femmes,
oui,
les enfants.
Oui, on tuait sans distinction.
Attendez, vous me dites que c'était des militaires qui étaient à l'hôpital.
Oui, oui.
Et qui, avec leurs propres béquilles.
Et ils tuaient, ils torturaient, ils enlevaient d'abord les mains, ils enlevaient les pieds, ils enlevaient les doigts. Et donc, ils faisaient quand même une torture, et une torture triste. On me disait de tuer l'enfant, ma fille. On me donnait un marteau, on me donnait une machette, en disant, allez. Tue d'abord ta fille pour qu'on puisse aussi te tuer en dernier lieu. Moi, je me leur disais que je n'ai pas de courage de tuer ma fille. On nous a conduits.
Et ça, c'était. Ceux qui vous conduisaient, c'était vos élèves.
C'était les Inéramoués.
Ah. Oui, mais ces Inéramoués, c'était vos élèves. Vous les avez eus à l'école.
Nous les avons vus à l'école. Ils sont assis devant nous.
Est-ce que vous croyez que c'est bon, que c'est bien de raconter ou pas? C'est préférable de raconter ou de pas raconter ce qui est arrivé?
C'est préférable de raconter parce qu'au fur et à mesure qu'on raconte, on a quand même... Quand on raconte ça, c'est facile. On a quand même la vie un peu facile. Quand on raconte ça, c'est mieux de raconter. En racontant, quand même, ça amincit le poids.
Ça amincit le poids en racontant?
Oui, oui.
Dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important. On assure que cette phrase fut prononcée par François Mitterrand au cours de l'été 1994. Si c'est vrai, le président socialiste n'aurait fait que dire tout haut ce que la politique française faisait tout haut, ouvertement, depuis longtemps. En disant, nous n'appartenons pas à la même humanité, cela va sans dire. À la mémoire des 2823 victimes de l'attentat de New York, du 11 septembre 2001, nous avons observé, souvenez-vous, une minute de silence. À ce compte, pour le Rwanda, la minute de silence durerait au moins 5 heures. Un silence que beaucoup, d'ailleurs, aimeraient voir prolongé indéfiniment. Le président Mitterrand a-t-il, oui ou non, prononcé cette phrase? On n'en sait rien, en fait. Mais il a fait mieux. Il a montré ce qu'il pensait de la situation au Rwanda, pays qu'il connaissait bien, situation qu'il connaissait parfaitement. Le 10 juin 1994, le président français célébrait la mémoire des 642 habitants d'Oradour-sur-Glane, en France, dans la Haute-Vienne. 642 qui furent massacrés par les nazis 50 ans auparavant. Et il n'ignorait pas qu'au même instant, le même jour, il y avait 20 Oradour au Rwanda, 20 Oradour par jour au Rwanda. L'industrie du massacre produisait 600 tonnes de cadavres par jour. A-t-il conclu son allocution en répétant « plus jamais ça » On affirme que oui. Aujourd'hui, il y a une jeune fille au Rwanda que nous connaissons qui s'appelle Valentine, qui fait partie des 250 000, 300 000 rescapés de ce génocide et qui nous conduisent à apprendre au moins deux mots de Kinyarwanda. Bapfouye Ouagazi. Bapfouye Ouagazi, ça veut dire à peu près les morts qui marchent, c'est-à-dire les morts dont la mort n'a pas voulu. Voilà ce qu'est aujourd'hui Valentine Iribagiza. Ces morts dont la mort n'a pas voulu. Et c'est elle que nous rencontrons à nouveau aujourd'hui. Depuis ces jours de mai 94 que nous évoquions hier, c'est pas seulement les images sidérantes, terrifiantes des charniers qui nous hantent, c'est le sens de ces images. Comment c'est arrivé? Comment comprendre ce qu'alors nous ne pouvions même pas imaginer? Comment agir? Comment fabriquer de l'évitable? Comment fabriquer des femmes, des hommes capables de résister à de telles catastrophes? Car, on le verra, il y a eu des résistances, il y a eu des actes d'insoumission. Il faut les raconter, les mettre en valeur, non pas pour en faire des héros exceptionnels, mais au contraire des gens ordinaires, histoire de se consoler, tout simplement. Jamais, ceux qui étaient là ce 27 mai 1994 n'oublieront le regard de cette fillette, Valentine, qui oscillait entre la mort et la vie, mort ou vivante. Jamais, comme à cet instant-là, l'existence d'un être humain était aussi nécessaire. Le simple fait de respirer, de boire la nuit l'eau dans la boue entre les cadavres, de gratter la terre pour trouver des racines à mâcher. Tout ça n'était pas seulement, nous en étions sûrs, des gestes dictés par l'instinct de survie, mais c'était bel et bien autant d'actes de pure résistance, de vraie rébellion face à l'anéantissement. Valentine fut et reste notre rempart, l'ultime. Je lui voue une reconnaissance infinie pour cette idée superbe, vivre. Comme disait Maurice Blanchot, vivre était alors tout le sacré.
Elle s'appelle Valentine. Valentine.
Il ne la reconnaît pas.
Non.
Non. Peine. Hein? Elle est peinée beaucoup. Elle a regardé sur la ligne.
Hein? Alors nous voilà. Nous voilà un an plus tard. À la recherche de Valentine Iribagiza, on est en mai 1995. Vous vous souvenez, on l'a laissé l'année précédente entre les mains de l'armée du FPR, qui depuis, vous connaissez en gros l'histoire, depuis a pris le pouvoir à l'issue, au terme de cette fameuse opération turquoise initiée par la France, dont nous reparlerons, qui avait amené la confusion entre ce génocide et l'épidémie de choléra, mais avec le temps, l'ambiguïté de cette opération a été s'est fait jour, disons. Donc, au cours de cette année, nous n'avons pas de nouvelles de Valentine. Dans le chaos qui s'ensuit entre ces morts vivants qui errent et titubent dans ce pays qui n'est qu'un immense charnier, et ceux qui viennent, ceux de la diaspora, qui arrivent de l'Ouganda, du Zaïre, on en disait encore le Zaïre à l'époque, du Burundi et de la Tanzanie, qui attendaient depuis longtemps le retour sur leur terre promise, ce Rwanda dont ils avaient fait une terre promise. Donc ils ont gagné, ils arrivent avec une énergie, avec tout ce que la victoire suscite d'ivresse, et en même temps ils se trouvent face à ce pays qui n'est qu'un charnier, qui est détruit, dont les caisses sont vides, et avec ces rescapés effarés, hébétés et sidérés. En même temps que 2 millions, 3 millions de Hutus, de Rwandais, sont sortis, eux, du pays, se sont réfugiés dans les pays voisins, en Tanzanie, et beaucoup, dans l'actuel Congo démocratique, c'est-à-dire au Zaïre à l'époque. Voilà, c'est un chaos absolument terrible. Alors vous pensez bien, dans tout ça, retrouver quelles sont les chances de survie d'une fillette que nous avons laissée dans un état aussi déplorable, je rappelle, après plus de 40 jours dans des cadavres. Donc nous partons à sa recherche, j'arrive à Bujumbura, je retrouve les mêmes, je retrouve Salvatore, notre traducteur, et Sakamai, le chauffeur, et nous reprenons un an après le même chemin, nous franchissons la rivière au même endroit, sur le même pont, le pont des suppliciés, où l'année d'avant nous avons vu passer ces centaines de cadavres, et cette fois-ci, comme si rien ne s'était passé. Il y a un gars qui est au bord de la rivière et qui pêche tranquillement. Et nous entrons dans Rwanda. Cette fois, il n'y a pas de problème pour franchir le poste frontière. Il y a toujours le panneau « Bienvenue au Rwanda ». Et nous roulons vers Kibungo, c'est-à-dire une ville proche de Nyarubuye, à environ une heure et demie de la frontière. Et là, nous trouvons ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver dans ce pays et qui s'installent à la place de ceux qui l'ont déserté, qui l'ont fui, et puis c'est rescapé. Et nous sommes avec nos photos, les photos de Valentine prises l'année précédente sur ce charnier, et on essaye de savoir si on a entendu parler d'elle, que savez-vous, est-ce que vous avez vu une jeune fille. Ces gens ont tellement vu d'horreur que ça les étonne pas ce qu'on leur raconte. Vraiment, nous n'étonnons personne. Valentine, c'est une histoire épouvantable, terrible, mais parmi des milliers d'autres. Et enfin, après avoir tourné en rond un peu partout, nous finissons par arriver à l'hôpital de Kibungo.
Voilà, Kibungo est arrivé à Kibungo, avec notre photo de Valentine. Un petit hôpital.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, je suis un spécialiste.
Infirmier spécialisé.
Ah, ok. Bon, je suis journaliste français, je travaille pour la radio française, et nous cherchons une jeune fille qui s'appelle Valentine, que nous avons rencontrée l'année dernière à Nyarubuye. Dans le charnier de Nyarubuye, nous sommes allés faire un reportage, et nous l'avons trouvée il y a un an. Ah, vous la connaissez?
Vous
savez où elle est?
Il était alors là dans la salle d'opération, la chirurgie plutôt, et puis elle a regagné l'orphelinat. Et maintenant, elle est rentrée à Nyarubuye.
Les dernières rouillées maintenant?
Les
blessures sur la tête n'étaient pas guéries. Il a encore des blessures sur sa tête, mais sinon sur la main ça va. Chez elle, elle a déjà quitté l'orphelinat.
Vous pouvez nous emmener voir sa famille?
Oui. D'accord, on va voir.
D'accord.
Au revoir, madame.
Question stupide. Quelle famille? Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille de Valentine. On finira par trouver une cousine. On finira par retrouver deux de ses frères encore survivants. Mais pour le reste, il n'y a plus de famille du tout. Alors, on apprend donc qu'elle a séjourné dans cet hôpital, qu'elle a eu, elle a été opérée de la main, c'est-à-dire que sa main a été coupée, voilà, à la hauteur des doigts. Ça, on apprend ça, et on apprend aussi qu'à la suite de son séjour, un séjour d'environ 4 mois dans cet hôpital à Kibungo, elle est allée, elle a été hébergée dans un orphelinat à Kibungo. Et dans cet orphelinat, il n'y a que des enfants, pas seulement sans parents, qui n'ont plus de parents, mais qui n'ont plus de famille du tout, qui ont pour éducatrice des femmes qui n'ont plus d'enfants du tout, plus de famille du tout. Voilà, c'est donc des... C'est plus que des orphelins, c'est des isolés avec des isolés que nous rencontrons dans cet orphelinat de Kibungo en ce mois de mai 1995. Les tout petits enfants là, hein. Tout petits enfants qui sont là, les tout petits de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Bonjour. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Jean-Marie Vianney.
Jean-Marie?
Je m'appelle Jean-Marie Vianney.
Ah. Et d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Notre c'est Kabarondo.
Je suis venu de Kabarondo.
Tu as été blessé? Il a une grosse marque à la jambe.
Un humain.
On regarde très dur ce gosse. Il est un peu apeuré. Tu sais où sont tes parents, ta famille?
À la pourrie.
Ils sont morts.
Est-ce que tu fais des rêves la nuit?
Il y a des fois où je pense à mes parents. Et je rêve et puis je pense souvent à mes parents. Il y a des fois où je rêve comment les miens ont été tués. Et puis je rêve, je vois toujours les inerahams qui courent derrière moi.
Comment t'as fait pour échapper?
Quand ils sont venus tuer chez nous, et puis on les a vus à temps, et puis on a fui, et puis on a échappé.
On, c'est-à-dire toi?
J'étais avec mon père. Et puis on a été à l'église. Les militaires ennemis nous ont attaqués à l'église et ont tiré sur mon père.
Quelle église?
À Kabarondo.
À Kabarondo.
Alors nous retrouvons et nous reprenons cette longue piste de terre rouge entre la route de Rusumo Kibungo et en allant vers Nyarubuye. C'est une piste qui serpente pendant une heure et demie, entre des champs de bananiers, sorgho, manioc, les petites maisons de terre qui ont été, pour certaines, reconstruites, d'autres sont toujours défoncées. Beaucoup sont dépourvus de toiture, les représailles ont été et les pillages sont beaucoup concernés, des toitures, les portes, les fenêtres, qui disent assez bien comment les pillards étaient des gens extrêmement pauvres, et on voit la très 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 grande pauvreté de ce pays, le Rwanda. On l'oublie dans la sidération, l'horreur, on oublie que la pauvreté est un des facteurs déterminants dans ce génocide. On y reviendra. Pour l'instant, notre hâte, c'est de retrouver Valentine, donc un an après. Alors on tourne dans tous les sens, il y a les barrages militaires parce que la zone n'est pas encore sécurisée, et puis après avoir posé des questions partout, à droite, à gauche, aux militaires, aux habitants, avec toujours nos photos à la main, au détour d'un chemin, nous apercevons une silhouette. Ah, voilà. On est au milieu des bananiers. Et il y a un groupe de jeunes filles qui est là. Et sous ce ciel gris, voilà. Et voilà. Avec son t-shirt Yves Saint Laurent, voilà Valentine. Avec son collier, elle a un petit collier blanc. Bonjour.
Bonjour.
Je vais t'embrasser.
Yaje gusura avuye wabiburaye. Urumva?
Ndica tuzi.
Yaje gusura gusa nta kindi.
Est-ce que tu te souviens que nous sommes venus l'année dernière à la paroisse?
Urumva ko twigeze kuza ku paroisse.
On t'a retrouvé.
Je me souviens.
Tu te souviens de nous?
Uratwibuka?
Oui.
Oui?
Uribuka ko wowe?
Et tu te souviens de lui, de Salvatore?
Urashobora gutandukanya abantu wabonye.
Fais voir ta main, donne-moi ta main. Ah là, les mains coupées, la troisième main coupée. Yeah. Ah, bébé. Regarde, on a quelque chose à te faire voir. Ah, c'est là. Voilà. Regarde, ça c'est toi. Regarde sa photo dans la cabane, on l'a retrouvée. Elle est très jolie, c'est une très jolie fille. Silence.
Vous ne voulez mon humain?
Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis? Raconte-nous.
Kuva kiye gihuwe umaze kuva muri ekeziya twakuzanye. Wasi ubaho gute?
Umaze kunkura mu nabaye neza.
Quand j'ai quitté la paroisse, j'étais bien. Hehe. Wati uja hehe?
Kibungo.
Je suis parti à Kibungo.
Et puis?
Nanyuma?
Et
puis après l'hôpital, j'ai fait l'orphelinat de Kibungo.
On te pose trop de questions. Dis-nous, qui c'est tout ça? Dis-nous qui c'est tes copains? Qui sont tes copains?
Non, mais c'est pas.
Ce
sont des voisines.
Est-ce que tu te souviens de Gaspard?
Oui, c'est Gaspard, je l'ai évoqué. Je me souviens de Gaspard. Gaspard, il est où?
En Tanzanie.
Il est parti en Tanzanie?
Oui, c'est ce que je dis.
C'est du chocolat.
C'est du chocolat pour elle.
D'où t'as sorti ce chocolat?
C'est dans le sac.
C'est pour les enfants, tiens. C'est pour toi et les enfants. Il est un peu fondu, tiens.
C'est ça que j'aime.
Un frère. Un frère qui a
son. T'es ton petit frère?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Je te vois qui?
Nidko. Mon homme, c'est Jérémy.
Mon homme, c'est Jérémy.
Oui.
Alors voilà les retrouvailles, beaucoup beaucoup de silence, beaucoup beaucoup de non-dits, les rondeurs générales, les Tutsis, peut-être plus particulièrement, j'en sais rien, en tous les cas Valentine est quelqu'un de très timide, de très réservé, avec des éclats d'enthousiasme, de rigolade, etc. Mais là on n'en était pas là, on était qu'à le poids de cette histoire évidemment. Alors on a retrouvé sa famille, enfin les proches, des proches, des voisins, et puis on est allé dans une maison où là Valentine et ses proches, ses avoisinants comme on dit, voulaient qu'elle raconte l'histoire, voulaient qu'elle raconte son histoire, voulaient qu'elle raconte ce qui était arrivé, ce qui lui était arrivé l'année précédente. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant, c'est ce récit qui est un récit tout à fait exemplaire que d'autres, des dizaines de milliers d'autres rescapés pourraient faire à leur tour. Mais celui-là, c'est l'histoire de Valentine.
Ouais, Valentine, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé?
Ils ont attaqué, c'était un vendredi 15 avril. Il était aux environs de
14h30.
Ils ont d'abord largué des grenades. Et puis ils sont entrés, ils ont dit, tous les Hutus sortez.
Un homme,
il a menti, il leur a dit, je suis Hutu, et il a voulu sortir. Et puis, on lui a jeté une grenade parce qu'il savait très bien qu'il était Tutsi.
Tu étais avec tes parents?
Oui, comment on a fait, monsieur Guy? Dans mon coin, j'étais pas avec les parents, mais je savais très bien que les parents étaient dans les parages aussi.
Il y avait qui encore de ta famille?
Il y avait mon grand frère, et ma soeur, ma grande soeur. Et d'autres cousins paternels. Ceux qui étaient dehors, on leur a dit de mettre les mains à l'air. Nous qui étions dans la maison,
ils
sont venus. Ils ont demandé à ce qu'on donne de l'argent. Ceux qui avaient de l'argent, ils ont donné. Et les autres ont leur chipé tout ce qu'ils avaient pris. Ils avaient pris comme provision en fouillant. Et puis après, ils ont pris les machettes, les massues, ils ont commencé à tuer les gens.
Tu as vu ça?
Puis ils ont pris les machettes et tué les gens, et puis... Celui qui recevait un coup de massue qui ne mourrait pas, après on faisait un coup de machette pour l'achever. Les gens qui tentaient de résister ont tiré à l'arme au feu alors.
Ils disaient,
barrez toutes les voies de sortie, barrez toutes les voies de sortie.
Après, ils ont terminé,
ils ont vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore morts. Ils avaient vu que les gens qui avaient eu des coups de machette, il y avait des morts, il y avait des blessés aussi. À ce moment-là, c'était vers 17h30. Ils ont dit, bon, allez, qu'on laisse, qu'on va incendier alors la maison.
Mais vous, pendant qu'on était en train de vous tuer, est-ce qu'il y avait des gens qui priaient, qui chantaient, qui criaient? Qu'est-ce que disaient les victimes, les gens qui...
Oui.
On n'en parle pas, il fallait jouer le mort. Eux-mêmes disaient, en serpent, on casse la tête, en serpent, on casse la tête. Ils sont revenus à 7 heures.
Ah, ils sont revenus le lendemain. Ça veut dire que dans la nuit, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient encore vivants?
Oui, il y avait quelques blessés. Qui n'avaient pas trouvé la mort.
C'est ça. Moi-même, j'avais été blessé.
Ils m'avaient fait un coup vers les côtes et puis ils sont partis. Je les voyais.
Tu les voyais. Est-ce que c'est des gens que tu connaissais, que tu connais?
Oui, tous les gens de notre coin ici, ils faisaient partie du groupe de gens qui nous tuaient.
Il y avait d'autres venus de d'autres collines, mais aussi les gens de chez nous faisaient partie du groupe.
Est-ce que tu n'essayais pas de leur parler? Est-ce que vous n'essayiez pas de leur parler en leur disant, mais ne nous tuez pas, arrêtez, qu'est-ce que vous...
Quand on disait, ayez pitié, alors on voulait leur inciter de tuer davantage.
Alors tu es resté toute la nuit, tout d'un coup ils sont partis et toi tu es resté toute la nuit.
Ce soir-là, on s'est déplacé pour se positionner quelque part où il n'y avait pas beaucoup de cadavres encore.
11, c'est-à-dire vous étiez combien?
On était autour d'une vingtaine.
Il y avait qui parmi les 20? Est-ce qu'il y avait tes parents?
Les parents étaient déjà morts.
C'est
mon père qui est mort sous mes yeux parce que ma mère était dehors et on lui avait demandé de mettre les mains à l'air. Et ces gens-là qui avaient mis les mains à l'air, ils ont été tués sur le champ. Mais mon père, c'est lui que j'ai vu.
Comment on l'a tué?
On lui a fait un coup de massette sur la tête.
Sur la tête?
Non, en fait, on a coupé la tête, c'était sur le cou. C'est ça, on a fait un coup. On a fait un coup de massette au niveau de l'oreille. Mais celui qui a fait ce coup de massette fatal, je ne l'ai pas reconnu.
Et ceux qui ont tué ta mère, tu sais qui c'est?
Ah oui, c'est maman. Ma mère a été tuée par les militaires.
Et tes frères et sœurs, ils étaient avec toi la nuit, avec les 20?
Oui, on était ensemble la nuit, tous blessés.
Qu'est-ce que vous disiez?
Nous, on avait gardé le silence pour qu'ils ne sachent pas qu'il y avait encore des survivants.
Ah. Mais vous auriez pu essayer de fuir? Le camp était gardé, enfin la paroisse était gardée?
Mes frères, ils étaient terribles, ils étaient gravement blessés, ils ne pouvaient pas fuir. Ils avaient reçu des coups de massette sur la tête et puis sur les jambes, ils étaient blessés sur les jambes, ils ne pouvaient pas marcher.
À quelle heure ils sont arrivés le lendemain? C'est la première fois que je vois cette gosse pleurer. Une larme de Valentine.
C'était samedi. Samedi, ils sont revenus pour les achever. Quand ils sont revenus, ils détruisaient les maisons. Et malheureusement, ils ne résistaient pas à faire tomber ces maisons qui étaient en dur. Et puis ils ont pris les portes qui étaient sur les maisons.
undi waraza nguwa undi bamaze gukuramo inzugi
sont venus
wenda nk'umuntu wabashoboye guterura bakajya mukubita hejuru y'undi bakumva uri kwitsa ubundi bakajya bakagukuramo bakagusohora.
Et puis ils sont revenus, ils croyaient que tout le monde était mort, ils soulevaient les corps, ils superposaient les corps. Et quand on laissait un corps sur quelqu'un qui était encore en vie, qui criait, alors ils comprenaient qu'il vivait encore. Et puis ils sont partis devant l'église. Arrivé devant l'église, on a vu deux camionnettes qui sont venues avec des militaires. Quand ils sont arrivés, les mecs là dans la camionnette, ils disaient ah, ce sont les serpents dont on nous parlait, les serpents là. Il y avait un homme qui s'appelait Antoine qui dirigeait les Inera Hamwe. Ce monsieur Antoine qui dirigeait les Inera Hamwe, il avait le sagé.
Une sagé.
Et il a répété encore une fois, le serpent, on tape sur la tête. Le serpent, on casse la tête. Et dis courage, dis-le, dis ce qui s'est passé, courage, parce que tu as survécu, tu as vu pire. Et puis il a dit, cet Antoine-là, je ferme les yeux, dès que je me retourne, il faudrait que vous tous soyez déjà couchés. Il s'est retourné, il a pris son poignard et il m'a tapé le poignard sur le cou. À ce moment-là, j'étais assise et je lui demandais pardon, je disais d'avoir pitié de moi. Et puis il s'est retourné et m'a poignardé. Et puis il faisait tout pour taper sur la tête, c'est ainsi que j'ai interposé ma main pour sauver la tête.
Elle refait le geste, c'est pathétique. Elle refait le geste pour se protéger. Et maintenant c'est un moignon, ça.
Puis disait, le vieux là, pourquoi tu étais contre le vieux? Et il disait à chaque instant, pourquoi avez-vous tué notre vieux? Ce vieux-là, c'était le président.
Tu sais qui c'était le président, toi?
Le président Rumuz.
Oui.
Je ne voyais le président que sur les photos. Je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Et puis ils sont partis croyant que nous tous étions morts. Et puis ils sont cassés tout près de chez nous. Ils se sont cassés pour voir si éventuellement il n'y avait pas quelqu'un qui était survivant pour qu'on l'achève. Certains sont entrés à l'église pour piller ce qui était à l'intérieur.
Et
puis un homme qu'ils ont vu, ils l'ont poursuivi. Ils ont demandé à ce que cet homme-là leur donne de l'argent. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent et puis on lui a fait des coups de pied.
Ils lui ont fait
des coups de massue sur les pieds.
Et puis
il leur a dit, pardonnez-moi. Venez chez moi, j'ai de l'argent, je peux vous donner 500 francs.
Et
puis ils sont venus, ils n'ont pas accepté, ils ont fait des coups de machette jusqu'à ce que mon sang suive.
Tu as vu ça?
Je l'ai vu, oui. J'ai vu.
Ils
sont entrés dans l'église pour piller, et puis... Et puis les gens qui étaient cachés à côté dans le bois surveillaient toujours ceux qui bougeaient. Ils avaient pris les habits des curés, des aides. Ils avaient aussi retiré un tabouret. Et puis quelqu'un il s'est vanté, je suis le premier d'avoir pillé les biens de Jésus.
Et
après ils sont partis.
Et
puis mes frères, je croyais qu'ils étaient morts, mais ils étaient encore en vie. Mon frère qui s'était caché, il s'est levé un peu, puis il s'est mis en position assise. Et puis un autre a appelé, a dit, ah, la fille là, elle est encore vivante. Et puis ils l'ont tué, c'était une sœur à Valentine.
C'était une sœur à toi?
À
ce moment-là, c'était le soir. Les enfants de mon oncle et un frère à moi m'ont dit d'aller boire de l'eau. Puis quand j'ai tenté de me lever, je suis retombé, je n'avais pas de force.
Combien vous étiez encore d'enfants vivants?
On était 4 enfants. Puis j'ai tenté encore de me lever pour aller boire de l'eau, je suis retombé. Quand il y avait la lune, je me suis levé, les autres étaient partis. Je suis retombé, j'ai vu, il n'y avait plus personne autour de moi, ils étaient partis. Je me suis traîné par terre jusqu'à l'église, à l'intérieur de l'église.
Parmi les morts.
Vers 8h30,
comme j'ai retrouvé les habits de ma grande sœur, j'ai essayé d'arranger comme là où me coucher avec les habits de ma grande sœur déjà tuée. Le soir, d'autres générales sont revenus.
Tu as enlevé les habits de ta grande sœur qui était morte?
Bon, les habits étaient à côté, c'était les habits avec lesquels bon, elle avait décidé de fuir avec.
Deux
hommes sont venus. Quand j'ai entendu les pas, je me suis encore couché pour montrer que j'étais morte. Et puis j'essaie de couper le souffle pour qu'on ne voit pas que je respire.
J'étais
là où on cache et on conserve les tambours quand, le jour des messes. Et celui-là qui est passé à côté de moi a dit, je viens de voir un serpent vivant.
Ils avaient
une lampe torche. Et puis ils sont venus. Ils ont dit, ah, ce serpent est vivant, il a même pu arranger là où se coucher.
Et puis ils ont pris des massues, ils ont tapé sur les pieds de Valentine. Oui, plein de pieds.
Ah, sur le plan des pieds.
Oui. Et puis quelqu'un s'est mis au-dessus de moi. Et puis il a essayé de presser sur les pieds, il a dit, ah, ce serpent, il est mort finalement. Il m'a fait un coup de pied sur le pied, puis il est parti. Et puis ce soir-là, j'ai changé de cachette. Là, j'ai changé, je suis parti, je me suis traîné encore quelque part. Et puis j'y ai passé un mois. J'y ai passé un mois, et puis vous êtes venu me prendre. C'est vous qui m'avez sauvé ce jour-là. Et puis, mais quand vous êtes venu?
Il y a eu deux
enfants aussi quand vous m'avez tiré de l'église, deux enfants qui étaient rescapés, vous ne les avez jamais vus.
Non.
Ils n'étaient pas blessés.
Et ils sont où?
Ils sont à Rukira.
Ah, ils se sont sauvés?
Oui.
Ils s'étaient cachés quand on était venus?
Il y a trois autres enfants.
Il y a deux autres enfants.
Non, ils étaient déjà partis. Il y avait des gens qui les avaient pris.
Ah, et pourquoi pas toi?
Ces gens-là, ils ont été sauvés par un militaire du FPR. À un moment donné, ils ont vu qu'il y avait un militaire qui venait, et puis ils sont encore glissés parmi les cadavres, croyant que c'était un militaire de Habyarimana. Et puis le militaire les a reconnus, a dit, bon, écoute, levez-vous, je vous ai vu. Mm-hmm. Et ils se sont rendus, ils sont venus vers ce militaire. C'est ainsi qu'ils ont été sauvés.
Mais pourquoi pas toi?
On n'était pas dans la même cachette.
Tu pouvais...
Ce militaire, il est venu, il a pris ses garçons, ses enfants. Et puis ses enfants, quand même, ils avaient été avertis que le militaire allait passer les prendre. Il est venu un jour, et puis le rangoon a dit, je reviendrai demain. Et ses enfants sont venus dire à Valentine qu'il y avait un militaire qui voulait les sauver. Voilà, ce jour-là, quand son militaire est revenu, il est venu avec ses enfants qui ont montré Valentine. Et puis Valentine a demandé à ce qu'on essaie de voir ce qui se passait sur le coup, parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait eu. Et le militaire a dit, couche-toi encore, pour toi, je pense qu'on ne peut plus te sauver, c'est fini pour vous.
Voilà le récit que Valentine nous a fait en 1995 sur le massacre de Niaroubouye. C'est un des rares, sinon le seul témoignage sur ce massacre qui compte 4000 à 5000 victimes. On s'était forcé avec Guy Van Til de retrouver tous les rescapés, tous les acteurs et les bourreaux également de ce massacre. On retrouvera ces personnages dans les émissions à venir. Merci à Valentine, merci à Salvatore, merci à Sakamai, merci à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis et à la technique. Pub.